Nous revoici en votre compagnie, Jean Cannavaggio. Vous êtes le grand spécialiste de Cervantes. Vous avez dirigé l'édition de l'œuvre dans la Pléiade, écrit des livres importants sur les diverses réceptions de Don Quichotte, établi la biographie, etc. Et en notre compagnie également, Roger Chartier, professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire du livre et de la lecture et fin connaisseur de la circulation des œuvres littéraires entre le 15e et le 18e siècle et au-delà d'ailleurs. Et Dieu sait si Don Quichotte a voyagé dans le temps et dans l'espace jusqu'à nos jours. Alors nous avons parlé dans la première partie de cette nuit spéciale consacrée à Cervantes pour le 400e anniversaire de sa mort, de l'œuvre passionnante du grand écrivain espagnol, œuvre bien plus vaste qu'on ne le sait en général, mais il nous faut centrer à présent sur le personnage grâce auquel Cervantes est resté présent pour la postérité, accompagné par Sancho Panza, dont nous n'avons pas encore vraiment parlé, sauf pour dire que Molière a joué le personnage. Don Quichotte a été donc d'emblée un personnage international, incarné dans les fêtes religieuses et profanes partout en Europe et dans toute l'Amérique espagnole et portugaise, Roger Chartier.
Ah oui, puisque nous avons évoqué les appropriations théâtrales du texte de Cervantes, du Quichotte, alors on ne peut pas non plus ne pas penser à l'incarnation des personnages à l'intérieur de nombreuses fêtes, certaines pouvant être des fêtes de type carnavalesque, d'autres aristocratiques ou d'autres religieuses. Et il y a les premières appropriations ou incarnations des personnages, on les voit en 1607 dans un tournoi où mettent en compétition des Espagnols qui se trouvent au Pérou, à Paosa, et qui se déguisent comme les héros des romans de chevalerie, mais l'un qui gagne le prix est celui qui a pris le costume et l'allure de Don Quichotte. On le voit de manière plus inattendue dans des fêtes de béatification d'Ignace de Loyola et de Thérèse d'Avila. La première, je crois, c'est 1610, Salamanque, où le triomphe de Don Quichotte fait partie d'une semaine entière de fêtes à fondement religieux qui sont en l'honneur d'Ignace de Loyola. Donc il y a une omniprésence des personnages, Don Quichotte, Sancho, quelquefois ceux qui les accompagnent. Et on voit la différence avec le théâtre, où le théâtre porte l'accent, comme on l'a dit avec Jean Cannavaggio, fondamentalement sur les nouvelles à l'intérieur de l'œuvre. Et ici, en fait, c'est le personnage central et son écuyer qui deviennent les héros de ces fêtes. Je ne sais pas si Jean Cannavaggio serait d'accord, mais pour Francisco Rico, l'essentiel serait qu'on a là un texte comme personne n'en a jamais lu. C'est-à-dire un texte qui n'est ni en roman pastoral, ni en roman picaresque, ni en roman de chevalerie, sinon sa parodie, et qui est écrit dans une langue, il emploie l'expression de prose domestique de la vie, et qui fait l'effet, le choc, la surprise.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, alors c'est quoi ce roman, enfin ce texte, ce récit, Jean Cannavaggio?
Il n'est pas réductible aux catégories d'Aristote.
Oui.
Ça n'est pas une épopée, ça n'est pas. Alors, celui qui essaye de le définir, c'est l'imposteur. C'est Avellaneda, quand il publie la deuxième partie apocryphe de Don Quichotte, un an avant la partie authentique, et il dit ce livre est une comédie. Parce qu'il a été frappé par l'importance des dialogues, c'est pas, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Et alors, Cervantes, lui, joue de cette ambiguïté, puisque, comme le disait tout à l'heure Roger Chartier, c'est une histoire. Bon, cette histoire, elle a été, soi-disant, écrite par un chroniqueur mort, qui est Sidamete Benengeli, qui est à la fois un chroniqueur scrupuleux, mais comme il est mort, il a tendance à mentir. Donc on ne sait jamais, n'est-ce pas, s'il dit le vrai ou s'il ne le dit pas. Et donc, il va y avoir une sorte d'arête, n'est-ce pas, sur laquelle se situe ce livre, dont on se demande toujours s'il ne va pas basculer d'un côté ou de l'autre. J'ajouterais aussi, dans la ligne de ce que disait Roger Chartier, c'est que cette popularité de Don Quichotte se fait à travers des gens qui ne savent pas lire et qui découvrent le personnage au-delà du cercle de ceux qui accèdent à l'écrit.
Mais de toute façon, c'est un roman qui vient, enfin c'est un roman étrange, il sort des livres, et il est lui-même une histoire qu'on trouve chez un libraire de Tolède, enfin il y a quand même chez Cervantes cette volonté de s'inscrire au fond à l'intérieur d'un processus d'écriture. Les romans de chevalerie, d'ailleurs, comme le faisait remarquer Michel Zinc, qui s'occupe lui alors des romans de chevalerie médiévaux, sont aussi des inventions. Les personnages des romans de chevalerie n'ont rien à voir avec les chevaliers réels. Et donc, au fond, on passe d'une invention à une autre, à l'intérieur d'une bibliothèque, disons à la Borges presque, au fond, une espèce de bibliothèque infinie.
Oui, je crois que c'est ce qui fait la grande modernité du texte, c'est le fait qu'il y a ce permanent discours sur le discours, en quelque sorte. Le fait que, comme le disait Jean Canavaggio, à partir du chapitre 9, le texte est une traduction de ce texte supposément écrit par Sidéa Mette Benenreli, mais ne disparaît pas pour autant celui qui, dans le chapitre 8, a cherché ce manuscrit, puisque les huit premiers chapitres sont une narration qui s'interrompt brutalement, et le lecteur déçu cherche la suite, il la rencontre, mais il ne disparaît pas. Et il y a constamment ce qui fascine, je pense, pour une esthétique moderne du roman, un commentaire de ce qui est le contenu même de la narration, et des jeux permanents entre des références historiques à une histoire imaginée ou une histoire réelle, et d'autre part le cœur de la fiction. Juste un détail, lorsque le curé et le barbier veulent détruire la bibliothèque de Don Quichotte qui l'a rendu fou, ils rentrent dans cette bibliothèque, ils examinent les livres les uns après les autres, ils en envoient beaucoup au bûcher, ils les brûlent, et parmi ces livres, un est sauvegardé, mais avec un commentaire un peu critique, c'est le livre qu'évoquait Jacques Canavaggio, c'est-à-dire la Galatée de Miguel de Cervantes. Donc le livre de Cervantes se trouve dans la bibliothèque de Don Quichotte, et le curé et le barbier disent oui, on peut encore le garder parce qu'on en attend la seconde partie qui peut améliorer la chose.
Oui, il y a une mise en abîme étonnante.
C'est ça.
Voilà, qu'on retrouve d'ailleurs au
début. Il y a un brouillage permanent.
Voilà, au début de la deuxième partie, lorsque Don Quichotte apprend qu'il existe une histoire de ses exploits, c'est-à-dire la première partie de Don Quichotte. Et alors pour lui, il s'agit évidemment d'une épopée, puisqu'il est un nouveau chevalier errant. Mais quand il interroge ceux qui ont lu ce livre, en particulier Sanson Carrasco, le bachelier, son voisin, on lui dit, mais non, c'est une histoire de ce qui s'est vraiment passé. Donc le chroniqueur ne passe absolument rien sous silence. Il détaille tous les coups de bâton, toutes les raclées que vous avez reçues. Et Don Quichotte est épouvantablement déçu. Voilà.
Alors, évidemment, pour les romantiques, et d'ailleurs pour un certain nombre de lecteurs, le personnage de Don Quichotte est central. Néanmoins, ce n'est pas un personnage seul. Il est accompagné par Sancho Panza, qui, dans ce monde hostile, va, au fond, l'accompagner sans cesse, être toujours présent. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'intérêt de ce personnage en Calvaggio.
Bon, mais je crois que Sancho, l'invention de Sancho, c'est un coup de génie de Cervantes. Parce que Sancho arrache en quelque sorte Don Quichotte à une sorte de solipsisme dans lequel il s'enfermerait et qui le ferait finir à l'asile. Sancho, d'une certaine façon, c'est celui qui inscrit Don Quichotte dans l'épaisseur des choses, qui le confronte au réel.
Oui, c'est ça.
Et qui lui offre un point de vue sur le réel qui n'est pas celui que Don Quichotte développe spontanément. Alors, il y a effectivement une interaction entre eux, dont on a dit qu'elle aboutissait à une sorte de métamorphose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la quichotisation de Sancho et la sanchification de Don Quichotte. C'est en partie vrai, simplement il ne faut pas systématiser ce processus. Ce qui est certain, c'est qu'en plus d'une occasion, Don Quichotte apparaît beaucoup moins délirant qu'on ne pourrait l'imaginer, parce que quand il fait l'épreuve du réel et qu'il s'aperçoit qu'il a échoué, bon, d'abord il trouve une explication, ce sont les enchanteurs qui ont voulu sa perte et qui lui ont fait voir des moulins là où il y avait des géants. Hein. Et puis, quand par exemple, on l'interroge sur l'existence de Dulciné, il répond non, le problème n'est pas de savoir si elle existe, hein, c'est que c'est elle a toutes les perfections que doit avoir la dame de mes pensées. Bon. Et alors, Sancho, de son côté, est aussi évidemment quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais en même temps, il vit avec un rêve, c'est le gouvernement de l'île que lui a promis Don Quichotte, et qui va finir par exercer à sa façon, par la malice du duc et de la duchesse qui le font gouverneur de Barataria.
On peut dire aussi que c'est un épisode dans la deuxième partie de Sancho, gouverneur de l'île de Barataria, qui va donner lieu à de multiples adaptations théâtrales. Théâtre de foire à Paris, comédie aussi dans le théâtre parisien, opéra à la cour de Vienne. C'est une matière extrêmement importante, intéressante, qui va être dans la droite lignée de ce que nous avons commenté sur les premières adaptations théâtrales des nouvelles à l'intérieur du Quichotte. La deuxième chose, je crois, que l'on pourrait dire, c'est le fait qu'il y a un moment extrêmement émouvant dans la seconde partie. C'est lorsque Don Quichotte veut renoncer à son identité de Don Quichotte et revenir à ce qu'il est, Alonso Quijano, le bon. Et à ce moment-là, les personnages, et en particulier Sancho, veulent le retenir dans la fiction. Comme si finalement cette fiction était plus puissante que le monde réel. Et bien entendu, il peut peut-être abandonner ce rôle de Don Quichotte, mais il y a eu un épisode où il y a une esquisse d'un Don Quichotte comme héros de pastoral. Il se désigne comme Quirotis. Et ce serait, après la défaite qui l'a obligé à renoncer pendant une année à ses folies chevaleresques, de ouvrir une autre histoire. On pourrait avoir un troisième partie de Don Quichotte dans lequel les personnages viennent des bergers, deviennent des pasteurs, retour à la Galatéa, mais dans les mots de Sancho, il y a comme la volonté de retenir la fiction et la réaffirmation que non, c'est fini finalement et que Don Quichotte n'est plus, et Quirotis n'apparaîtra pas et Alonso Quijano, dit le bon, va paisiblement entrer dans ses derniers moments.
Oui, alors justement, cet épisode que vous citez très opportunément est intéressant parce que Don Quichotte et Sancho rêvent tous les deux de devenir bergers. Simplement, ils n'ont pas du tout la même conception de la pastorale. C'est pas Don Quichotte veut chanter ses peines d'amour au pied d'un arbre, n'est-ce pas? Tandis que Sancho imagine une sorte de ripaille tout à fait sympathique. Et alors là, ils s'aperçoivent que finalement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Moi, j'aimerais bien qu'on dise quelques mots sur les noms, Jean Canavaggio, ce nom par exemple de l'écrivain fictif des aventures de Don Quichotte, c'est-à-dire Cid Hamet Ben Engeli.
C'est un nom
à clé, bien sûr.
Qui a fait couler des torrents d'encre. Bon, Cid Hamet, c'est relativement simple à expliquer. C'est le seigneur qui loue le plus le seigneur, n'est-ce pas? Mais alors, quand on arrive à Ben Engeli, on est embarrassé parce que Sancho propose une étymologie. Il dit c'est celui qui aime les aubergines, Ben Engelas. Voilà. Parce que les Morisques aiment les aubergines. Alors, simplement, du point de vue phonétique, le processus n'est pas bon. Hein. Alors, parmi les hypothèses qui ont été proposées, il y en a une que je trouve assez séduisante, c'est celle que propose Ben Cheneb et Marcilly, qui font remarquer que Ben Engel, ça veut dire le fils de l'évangile. Donc, ce chroniqueur mort, fils de l'évangile, serait chrétien, c'est-à-dire qu'en fait, Cervantes serait à la fois l'homme, non pas l'homme de l'islam, mais l'homme qui a connu l'islam, et en même temps celui qui assume son identité chrétienne. Voilà.
Ce qui est vrai d'ailleurs, il a connu l'islam et il parlait au moins quelques mots d'arabe, sans doute, Roger Chartier.
Ah, c'est du moins ce que suppose Anthony Burgess dans
Le
travail Adolide.
Il n'y a pas de raison. Non, pas vrai. Il est resté quand même 5 ans dans des...
Mais ce qui renverrait à un thème qu'a souvent traité Jean Canavaggio, c'est-à-dire comment il y a une forme de double de Cervantes à l'intérieur des personnages de Cervantes. C'est pas du tout une copie, une transposition immédiate. C'est un jeu de miroir. Non seulement peut-être entre Don Quichotte et Cervantes, mais aussi par exemple avec le captif qui s'est évadé des bagnes d'Alger, qui arrive dans la dernière partie de la première partie du texte et qui a une vie parallèle et décalée avec celle de Cervantes. Ils ont été tous les deux capturés par les Ottomans, mais pas à la même date et pas à l'épandre pour Cervantes. L'un s'est échappé, l'autre a essayé. Tous les deux ont été rachetés par les Trinitaires. Donc il y a ces jeux, et on pourrait retrouver avec l'espagnol anglaise le même jeu d'écho. C'est ce qui est un élément, évidemment. Il y a peut-être même un autre aspect. Il y a qu'on n'a pas encore évoqué. Il y a l'Amérique est présente dans Cervantes, aussi bien les nouvelles exemplaires que dans cet épisode du captif, puisque un de ses frères a fait fortune au Pérou et l'autre est en partance pour le tribunal de Mexico. Et on peut rappeler qu'en 1590, Cervantes avait envoyé un mémorial au Conseil du roi pour obtenir une charge, un office, soit dans l'administration fiscale, soit dans un tribunal, dans une ou une autre des provinces des Indes occidentales, c'est-à-dire de l'Empire espagnol. Elle lui a été refusée. Si elle avait été acceptée, peut-être nous ne serions pas ici dans cette nuit, parce qu'il n'avait écrit à l'époque que la Galatée, et une autre carrière aux Indes l'aurait peut-être détourné de tout projet d'écriture futur.
Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est de penser aux occasions au cours desquelles Cervantes a failli ne pas devenir Cervantes. Pas il perd l'usage de la main gauche à l'épandre. Si c'était l'usage de la main droite, il n'aurait pas pu écrire. Bon, ensuite, il est fait prisonnier par les Barbares, qu'il essaye de s'évader. S'il avait été mis à mort, l'affaire se terminait. Il rêve d'aller aux Indes et on voit la réponse qu'il reçoit, et ainsi de suite. Bon.
J'aimerais bien, Jean Calavaggio, continuer un peu sur les interprètes, alors là, pour le coup, modernes de Cervantes et des lecteurs de Don Quichotte. On pense, par exemple, on parlait de cette coupure du 18e, 19e siècle, où tout d'un coup, de comique, le personnage devient au fond tragique. Et que devient-il aujourd'hui, qu'est-il devenu au cours du XXe siècle avec, par exemple, Unamuno ou encore avec Marc Trobert?
Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je crois, deux lignes de pensée. Il y a d'une part ce qu'on développe à propos du personnage qui est devenu un mythe, bon, et sur lequel on s'interroge. Alors, c'est ce que fait, par exemple, Unamuno dans une perspective très précise, qui est celle de la crise de puissance et de la décadence de l'Espagne en 1898-1905 à la suite de la perte des dernières colonies. Et donc, Unamuno va voir Don Quichotte une sorte de symbole de l'Espagne, pas dans son inadaptation, n'est-ce pas, et en même temps dans ce qu'elle a de glorieux, n'est-ce pas, et cet idéal qu'elle oppose à l'idéal mécanique et matérialiste des pays anglo-saxons. Bon. Alors, il nous propose une sorte de glose, de commentaire, chapitre après chapitre, des aventures de Don Quichotte, avec une espèce de coloration religieuse qui est assez étonnante, puisque Don Quichotte devient une sorte de nouveau Christ, pas, qui, lorsqu'il arrive à Barcelone, est accueilli comme le Christ est accueilli à Jérusalem, c'est pas avant la Passion, et Don Quichotte va connaître aussi sa Passion. Bon. Mais c'est une lecture quand même très orientée et très, très hispanique. Ouais. Dans le cas de Marthe Robert, c'est autre chose. Je crois que Marthe Robert est partie d'une réflexion que je trouve très, très profonde, qui est que Don Quichotte, au fond, c'est le lecteur absolu, c'est celui qui veut éprouver jusqu'au bout la vérité des livres et qui va au-delà de ce que nous, lecteurs, nous faisons lorsque nous lisons un livre et que nous ne nous posons pas la question de savoir si c'est vrai ou pas. Donc, il éprouve la vérité des livres, mais il l'éprouve dans sa vie, dans sa chair et à son détriment, alors que nous n'allons pas jusque-là. Alors, à partir de là, elle développe une réflexion très, très intéressante sur ce symbolisme de l'itinéraire de Don Quichotte qu'on peut retrouver décliné par d'autres écrivains, notamment chez Kafka, n'est-ce pas, à travers le héros K, le héros du château. Bon. Alors, ça, c'est une première ligne. L'autre, c'est celle qui consiste à se demander dans quelle mesure Don Quichotte incarne le héros de roman moderne. Et là, on part de ce que Harry Levin appelait le principe quichotesque, c'est-à-dire que plus le héros de roman, enfin, tout héros de roman, affronte le monde, eh bien, selon que le monde se dérobe ou que le monde se rebelle, c'est pas, cette fracture peut être soit comique, soit tragique. Et alors là, on va retrouver chez Herman Melville, par exemple, oui, le personnage de Moby Dick, ou bien chez Dostoïevski, ou bien chez Joyce, pas, des contre-champs, enfin, si vous voulez, de Don Quichotte. Mais avec une distance, n'est-ce pas, qui exclut toute imitation mécanique.
Roger Chartier, en dehors de Ulysse, par exemple, il y a très peu de personnages qui, comme Don Quichotte, se prêtent au fond à toutes les interprétations, à toutes les époques, à tous les espaces. C'est vraiment un personnage universel.
Oui, c'est sans doute un des mystères de la puissance littéraire.
Il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire de la littérature,
non,
hein, des
pour
personnages
ça que
de cette
ce
ampleur.
Le mystère est fort, c'est-à-dire le fait que, comme on l'a vu, Don Quichotte est très profondément inscrit dans une réalité historique particulière, précise, et en même temps a cette capacité de porter des interprétations multiples. Alors qu'est-ce qui fait quelle serait la solution de ce mystère? Ce n'est pas aisé. On peut penser qu'il y a dans un texte de son temps, dans son temps, des potentialités, des virtualités, des latences qui peuvent être activées dans d'autres contextes, dans une sorte de zone entre la conscience de l'écrivain et une sorte de présence de possibilités dont il n'aime peut-être pas le maître. Et donc il y a là une capacité, mais vous avez tout à fait raison, c'est un cas très exceptionnel. Par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est sans doute le seul exemple d'un personnage et de ses compagnons qui sortent des pages pour devenir des personnages de fête, des personnages de théâtre. On ne le verra répéter qu'au XVIIIe siècle avec la nouvelle Héloïse, Paul et Virginie et d'abord les romans de Richardson. Donc il y a cette première puissance qui crée cette capacité de réinterprétation du personnage. Et effectivement, la tension. Et sans doute parce qu'à chaque époque, quelque chose qui dominait les interrogations, les inquiétudes, peut trouver son incarnation dans Cervantes. Pourquoi au XVIIIe siècle? Entre autres parce que le XVIIIe siècle est obsédé par la lecture. C'est-à-dire d'un côté la lecture comme condition du progrès des Lumières et la lecture comme danger physique, moral. Et où est-ce que, comme vous le rappeliez, Jean Canavadio, où est-ce qu'il y a un roman ou un texte où la lecture est si fondamentale? C'est bien dans le Quichotte. Et ce que vous évoquiez avec Doré, c'est-à-dire cette image romantique de l'homme qui finalement se heurte au monde alors qu'il le veut le transformer pour son bien, a entraîné une lecture des anarchistes ou des socialistes ou des communistes espagnols. Je me souviens d'un colloque à Toulouse où émigrés du temps de la République, à ce moment-là déjà âgés, parlaient du Don Quichotte comme si c'était la lecture de leur vie dans cette perspective. C'est-à-dire la capacité, la volonté, le désir de changer un monde mauvais et qui se heurte à des puissances encore plus mauvaises.
Il y a d'ailleurs une anecdote que vous connaissez, que cite Pierre Villard dans sa petite histoire de l'Espagne. Au moment de la libération de Paris, une partie de la deuxième DB était intégrée par des républicains, des soldats républicains, et qui sont arrivés sur la place de l'Hôtel de Ville avec leur aftrak. Et alors, les aftrak portaient les noms de victoires républicaines, Guadalajara, Brunet, etc. Et puis il y en avait un qui s'appelait Don Quichotte.
C'est magnifique. Hein. Alors, on a juste évoqué, mais on n'aura pas le temps de faire plus qu'une évocation, les films, les peintres, les musiques. Alors, je dois dire que quand même, ma préférence va à la magnifique image à l'encre de Picasso qui illustre votre Pléiade, Jean Canavaggio, c'est vous qui avez choisi le Picasso. Vous auriez pu. Je sais que vous aimez beaucoup, pourtant, le Don Quichotte de Daumier, par exemple.
Je l'aime beaucoup, oui. Alors, cela dit, le Don Quichotte de Daumier, graphiquement, n'était pas aussi expressif.
Parce que là, il est en noir et blanc.
Il est en noir et blanc, voilà.
C'est une merveille de Picasso.
On avait trois possibilités. Il y avait Garouste, il y avait Daumier, que j'avais d'ailleurs repris dans Don Quichotte du Héros Mythe, et puis il y avait Picasso. Alors, évidemment, Picasso, on le voit partout, mais en même temps, je dirais que Picasso rend l'essentiel, c'est-à-dire le contraste des deux silhouettes, n'est-ce pas ? Et puis le soleil qui écrase la Manche et qui fait chauffer le cerveau de Don Quichotte, et puis les moulins à vent qui suffisent à rappeler de qui il s'agit.
Et puis le côté Ross de Rosselliante.
Le côté de, oui, absolument. Oui.
Le pauvre cheval de Don Quichotte, en quelque sorte.
Tout à fait.
Picasso, oui. Ça le montre bien aussi, au fond.
Ah oui, ça, je crois que c'est quand même un choix, ce choix qui est justifié et qui d'ailleurs a contribué au succès du livre.
Mais l'image s'est imposée d'emblée, puisque la première fois où sur une page de titre on nargue les deux personnages ainsi opposés dans leur corps, mince, émacié et un peu rebondi, et d'autre part, en arrière-fond, le moulin à vent, c'est en 1618, dans la seconde partie du Quichotte, dans l'édition française, et pour la première fois, il y a une image qui est la préfiguration de celle-ci et qui est repris par la traduction anglaise de la seconde partie en 1620. Ce qui fait qu'on a à la fois le contraste entre les deux personnages, qui est sans doute peut-être une des réponses à votre question, pourquoi il y a cette possibilité de réadaptation, parce qu'ils sont d'emblée donnés dans une distance, un contraste, une relation, et d'autre part les moulins à vent qui vont devenir quasi la synecdoque, la partie pour le tout du roman, puisque tout film, sauf quelques-uns plus récents, qui a mis en scène Don Quichotte, donne une place absolument essentielle à la lutte contre les moulins à vent. Et les premières allusions anglaises de 1607-1608 sont des allusions au combat contre les moulins à vent.
Tout à fait. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les autres mythes du monde moderne, enfin de la littérature moderne, je pense à Don Juan, je pense à Faust, n'ont pas donné lieu à ce type d'iconographie. Ils ne sont pas immédiatement identifiables par ceux qui n'ont pas lu leurs aventures. Alors que dans le Don Quichotte, oui. Don Quichotte, vous le retrouvez sur des t-shirts, sur des cendriers. Bon, vous ne trouvez pas Faust et Don Juan sur des t-shirts.
Absolument. Alors, Roger Chartier, vous faisiez remarquer dans un de vos cours que Don Quichotte et Sancho Panza étaient ensemble une figure de l'universel.
Oui, avec ces déplacements de quel est le contenu de cet universel.
Vous disiez qu'il fallait être deux, qu'il y avait toujours deux personnages qui pouvaient incarner l'universel.
Effectivement.
Le maître et Marguerite, par exemple.
Oui, il y a Don Juan et son valet qui portent des noms différents chez Molière, Sganarelle, chez Catalinon dans la Comédia. Chez Maître Puntilla et son valet Matti. Donc, il y a effectivement cette structure de deux personnages contrastés dans leur statut social, dans leurs apparences physiques, dans leur rapport avec l'écrit ou l'oralité, qui est une structure, on pourrait dire, qui accueille les possibles réemplois.
Oui, Jean Canavaggio.
Je ne vois rien à ajouter à ce que dit Roger Chartier, qui fait véritablement le tour de la question. Non, simplement, je repense à propos de ce qu'on disait du contraste entre Don Quichotte et Sancho et de la façon dont cette opposition se nuance. Lorsque Don Quichotte envoie Sancho en ambassade auprès de Dulcinée, bon, et puis que Sancho revient lui rendre compte de son ambassade, en fait, il est obligé d'inventer ce qu'il a vu parce qu'il n'est pas allé voir Dulcinée. Et alors, Don Quichotte lui pose une série de questions et lui dit, par exemple, est-ce que tu n'as pas senti une odeur, tous les parfums d'Arabie, c'est pas qui émanait d'elle ? Alors, il dit, non, je l'ai trouvé en train de, en train de charger de sacs de blé son âne. Et en fait, elle sentait la sueur parce que, bon. Et alors, il lui dit, non, ce n'est pas possible, c'est que tu te sentais toi-même ou que tu t'es enrhumé.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dulcinée, mais bon, on les laisse en suspens tous ces personnages magnifiques. Et donc, je vais vous proposer d'écouter pour cette deuxième partie de la nuit, donc quelques autres archives. Nous allons entendre une émission intitulée Don Quichotte entre le livre et le temps, qui replace l'œuvre de Cervantes dans son contexte historique et dans l'histoire littéraire de son temps. Puis l'écrivain Emmanuel Robles qui nous parle de son amour pour le roman de Cervantes. Emmanuel Robles, qui était, je crois, un jury et que vous avez rencontré sur Cervantes, Jean Canavadio.
Je ne l'ai pas rencontré, mais il m'a mis le pied à l'étrier parce que lorsque j'ai publié mon Cervantes, c'est-à-dire La vie de Cervantes, l'éditeur Claude Durand l'a proposé au jury du Goncourt de la biographie. Et j'avais envoyé un exemplaire dédicacé à Robles, que je ne connaissais pas, mais je savais qu'il avait monté une pièce de Cervantes à Oran, qui était le Gallardo espagnol. Et il paraît que Robles s'est enthousiasmé pour ce livre et qu'il m'a défendu bec et ongle, et c'est grâce à lui que j'ai obtenu cette bourse.
Voilà. Alors, nous entendrons aussi un débat entre Bernard Dort et Marthe Robert sur cet objet étrange, donc est le roman Don Quichotte de la Manche. Et enfin, très drôle, un entretien imaginaire avec l'auteur morisque des aventures de Don Quichotte, Cid Ahmed Ben Engeli. Puis nous nous retrouverons après avec vous, Jean Canavadio, et avec vous, Roger Chartier, pour terminer cette nuit.
Très bien. Nous restons éveillés.
Oui, je trouve qu'on résiste assez bien au besoin de sommeil.